Josué 1. Et il arriva après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, disant, « Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne, à eux, les fils d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Vos frontières seront depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme, car toi, tu feras héritier à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme, ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Et Josué commanda aux officiers du peuple disant, passez par le milieu du camp et commandez au peuple disant, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne pour le posséder. Et Josué parla aux Rubénites et aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, disant, « Souvenez-vous de la parole que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a commandée, disant, « L'Éternel, votre Dieu, vous a donné du repos et vous a donné ce pays. » Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux demeureront dans le pays que Moïse vous a donné en dessein du Jourdain. Et vous passerez armés devant vos frères. Vous tous les veillantons et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel donne du repos à vos frères, comme à vous, et qu'eux aussi ils possèdent le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Alors vous retournerez dans le pays de votre possession et vous le posséderez, celui que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en dessein du Jourdain vers le soleil levant. Et ils répondirent à Josué, disant, « Tout ce que tu nous commandes, nous le ferons, et nous irons partout où tu nous enverras. Comme nous avons écouté Moïse en toutes choses, ainsi nous t'écouterons. » Seulement que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton commandement et qui n'écoutera pas tes paroles en tout ce que tu nous commanderas sera mis à mort. Seulement, fortifie-toi et sois ferme. Jusqu'ici, au début de la parole de Dieu. Il est toujours intéressant comment Dieu commence un livre, comme ici le livre de Josué. Et les premiers mots que nous avons ici, en hébreu, c'est juste une lettre, c'est « et ». Et ces « et » montrent que Dieu continue avec ce livre l'histoire qu'il a déjà commencé à faire écrire. Certainement, Genèse ne commence pas avec un « et ». au commencement. Mais Exode, Lévitique, Nombre, ces trois livres commencent tous avec ce « et » parce que on peut comprendre ce que Dieu a à nous dire par ces livres seulement si on regarde dans les livres avant. Exode, il faut comprendre, ou au moins lire, ce que Dieu a dit par Genèse, etc. Avec Deutéronome, c'est un peu différent, parce que Deutéronome ne continue pas l'histoire du peuple Israël, mais c'est plutôt qu'il met le peuple un pas derrière pour reposer, pas tout à fait reposer, mais pour regarder en arrière et pour regarder en avant. Mais ce n'est pas une continuation dans Deutéronome. Mais avec Josué et Juge aussi, ça recommence l'histoire. Et ça veut dire, pour comprendre Josué, il est nécessaire d'avoir une certaine vue claire de ce que Dieu nous a à dire par les livres avant. Pour cela, il est utile de voir que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, aussi dans Romains 15, trois fois ensemble, il nous dit, 1 Corinthiens 10, verset 6, il a parlé de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, en fait, et il dit dans le verset 6, 1 Corinthiens 10, « Or ces choses arrivèrent comme type de ce qui nous concerne, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme ceux-là aussi ont convoité. » Et plus tard, dans le verset 11, « Or toutes ces choses leur arrivèrent comme type, elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins de siècle ont atteint. » Ça nous montre que l'Ancien Testament, en tout, on peut dire, et spécialement les livres de Pentateuch, les cinq livres de Moïse, sont des livres qui parlent à nous. En effet, l'Ancien Testament est plutôt donné à nous qu'à ce peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils ont expérimenté ces choses, mais qui a pu lire la parole, l'Ancien Testament? C'était fait pour le sacrificateur. Le sacrificateur a dû le mettre dans ou à côté de l'arche. Et il a dû, les rois plus tard, ils ont dû faire une copie de cette loi, mais ce n'était pas comme nous aujourd'hui, ce soir, que chacun a eu sa Bible, son Ancien Testament dans ses mains. Et la plupart n'étaient pas encore écrits. Si on regarde, par exemple, les six derniers livres, ça veut dire les trois derniers prophètes, et aussi Esra, Néhémie, Esther, ce sont les livres très très tard. La plupart des peuples était déjà mort. Alors ça montre clairement que l'Ancien Testament est écrit pour nous. Aussi, le livre de Josué et les livres avant. Alors, pour ainsi dire, quelles sont les étapes nécessaires pour comprendre Josué? Premièrement, le peuple d'Israël, quand c'était devenu un peuple, c'est seulement dans l'Exode, le peuple d'Israël était sous la domination du Pharaon en Égypte, sous l'esclavage des Égyptiens. Et ça montre comme type la situation de chaque homme qui est né aujourd'hui dans le monde, qui est sous la domination de quelqu'un. C'est Satan. Satan qui est le prince de ce monde, Jean 14 à la fin, qui est le Dieu de ce monde, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, et lui est celui qui domine sur tout le peuple. Et en même temps, l'homme naturel est esclave de ce monde, parce qu'il fait partie de ce monde qui prend, pour ainsi dire, chacun comme sa proie. Et le peuple d'Israël n'était pas capable de se délivrer lui-même. Ils ont eu besoin de quelqu'un dehors d'eux. qui était capable de les délivrer. Et c'est la situation de chaque homme aujourd'hui, aussi de ceux qui font partie des familles chrétiennes. Quand je suis été né, j'étais un homme anaturel, j'étais un incrédule. Même si mes parents étaient croyants, mais moi pas. Et il fallait quelque chose pour moi, que Dieu a fait pour moi, que je suis devenu croyant. Alors, nous trouvons dans ce livre d'Exode que Dieu a utilisé deux instruments pour délivrer, pour sauver Israël de cet esclavage. Deux moyens. C'est premièrement la Pâque et c'est deuxièmement la traversée de la mer Rouge. Les deux choses sont nécessaires pour nous. La Pâque est vraiment une belle image de ce que le Seigneur a fait à notre place. Pour chaque Israélite, disons pour le premier-né, il était nécessaire que cet agneau de Pâque était sacrifié, que c'était mis à mort. Et le sang de ce sacrifice, de cet agneau, a dû être mis à la porte, autour de la porte de chaque maison en Égypte pour ce premier lit en Israël. Alors ça montre qu'il y avait quelqu'un qui a dû mourir, soit le premier-né, soit l'agneau. Et c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Chacun est sous le jugement de Dieu. Comme les Israélites étaient comme les Égyptiens, Dieu a dit, je vais marcher au milieu de ce pays et je vais tuer chaque premier-né, sans exception, seulement si je vois le sang autour des portes. Alors, soit l'agneau était mort, soit premier-né en Israël. Il n'y a pas de différence entre le premier-né en Israël comme pour le premier-né des Égyptiens. C'était tout à fait la même chose. Et pour nous aussi qui ont encore les parents qui sont croyants, il est nécessaire que quelqu'un est mort à ma place. Et c'était le Seigneur. Il est dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, qui fait clair que la Pâque, l'agneau de Pâque, est vraiment une image du Seigneur. 1 Corinthiens 5, verset 7, à la fin, « Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. » Ça veut dire, la Pâque est un type de notre Seigneur. Est-ce que chacun qui est ici peut dire, Christ, ma Pâque, était sacrifié pour moi. Jésus était mort pour moi, ça veut dire à ma place. Sinon, tu es encore sous le jugement. Et comme tous les premiers-nés, en Égypte, étaient tués qui n'ont pas mis le sang autour de leur porte, tu seras aussi jugé éternellement parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Et ce que Dieu dit est vrai et sera accompli à son temps. Maintenant, il est intéressant que les Israélites par la Pâque, n'était pas encore délivré de l'Égypte. Ils étaient encore en Égypte et n'étaient pas encore capables de juste sortir d'Égypte. Il fallait encore la traversée de la mer Rouge. Maintenant, pour nous, est-ce qu'il y a encore quelque chose nécessaire pour être, pour être cherché par le Seigneur pour le ciel en plus du Pâque, de la Pâque? Et la réponse est non. la mort de notre Seigneur suffit pour m'ouvrir le ciel. Mais l'Ancien Testament ne regarde pas la situation, la vie d'une personne, la vie d'un croyant, par la position dans laquelle Dieu nous pose, nous met. Parce que la position pour quelqu'un pour qui Christ est mis à mort, qui a accepté Jésus comme sauveur, est qu'il est libre pour le ciel, absolument. Mais l'Ancien Testament nous montre le chemin d'un croyant ici sur la terre. Et le croyant est encore sur la terre. Certainement pour le ciel, il est déjà libre, délivré. Mais pour la terre, pour être vraiment délivré de cet esclavage du Satan, de l'esclavage de ce monde et même esclavage du péché, il a besoin encore de sortir d'Égypte. Et c'est possible seulement par la traversée du mer Rouge, de la mer Rouge. Sans la traversée, on reste en Israël. Et si on regarde Exode 14, ils ont eu peur, les Israélites, avec raison, parce que le Pharaon était derrière eux. Il fallait cette traversée de la mer Rouge. Quelle est la différence entre la Pâque, la signification de Pâque, et la signification de la traversée de la mer Rouge? Comme j'ai dit, la Pâque nous montre que Christ était mis à mort à notre place. La traversée de la mer Rouge nous montre comme Moïse est allé comme premier pour traverser la mer Rouge et le peuple d'Israël, ils ont suivi Moïse. Ça veut dire qu'ils ont pris le même chemin que Moïse. Alors Moïse est un symbole, est un type de notre Seigneur. Et la mer, traversée de la mer Rouge parle encore une fois de la mort du Seigneur. Parce que si on a regardé vers la mer Rouge, Dieu a, par un miracle, il a séparé l'eau à gauche et à droite. Et le peuple, Moïse et avec lui, le peuple d'Israël, a traversé entre les murs. Si on a regardé, on n'a rien vu de ce peuple d'Israël. On a vu l'eau. Et cette eau est souvent, ou quelquefois, c'est une image de la mort. En fait, cette mer Rouge était la mort pour les Égyptiens qui ont poursuivi après le peuple d'Israël. Parce que cette eau parle du jugement par la mort. Et pour le monde, la mort de notre Seigneur, parce qu'ils n'acceptent pas cette mort pour eux, cette mort est le jugement. Dieu va les juger parce qu'ils n'acceptent pas la mort de notre Seigneur. Mais pour le croyant, cette mort que le Seigneur a endurée est leur délivrance. Pourquoi? Parce que, il est dit dans Romains 6, dans le verset 8, Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Or, si ceci est répandu, est accompli, c'est la raison pour laquelle on peut traduire aussi Or, car nous sommes morts avec Christ. Comme Moïse était dans ce mer Rouge et le peuple avec lui, alors Christ était mort et nous avec lui. Nous sommes morts avec lui. Ça veut dire, quand lui était à la croix, sous le jugement de Dieu, quand il était mort après, Dieu m'a vu en lui. Quand Dieu a jugé le Seigneur, il m'a vu dans le Seigneur. Quand le Seigneur était mort, Dieu m'a vu en lui. Je suis mort avec le Seigneur. Il est très clair que la mort nous délivre de l'esclavage. Nous délivre de cette domination de Satan. Pourquoi? Parce que Satan n'a aucun pouvoir sur des morts. Satan a pouvoir sur ceux qui vivent sur la terre comme homme naturel. Mais si quelqu'un est mort, le pouvoir de Satan est fini. Ça c'est dit dans Hébreux 2. Hébreux 2 nous montre que Satan a vraiment le pouvoir de faire crainte aux hommes. Elle est dit à Hébreux 2, verset 14. Puisque donc les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui, Christ aussi, semblablement y a participé, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude, disons, de Satan. Alors, par sa mort, il nous a délivrés de cette servitude de Satan. C'est Exode. Ce sont les deux étapes d'Exode, de nous délivrer du jugement de Dieu, Pâques, et de la servitude de Satan, c'est la traversée de la mer Rouge. Alors, par ces deux éléments, par ces deux moyens, Dieu nous a délivrés. Après, le peuple d'Israël n'était plus en Égypte, mais ils étaient dans le désert. Le désert, c'est en fait la place où le croyant se trouve aujourd'hui. Le désert, c'est le monde plus dans le caractère, avec le caractère de domination sur nous, mais le caractère de ce monde a changé pour le croyant, c'est le désert. Et quelles sont des marques de ce désert? C'est il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de force dans ce monde. Le monde ne peut personne donner joie, force pour marcher ici. Et le monde ne peut pas non plus donner la nourriture nécessaire pour notre vie intérieure. Le monde est impuissant. Et j'espère bien que nous comprenons cela bien. Parce qu'après un certain temps, après qu'on s'est converti et accepté Jésus comme sauveur, après un certain temps, on peut penser que le monde est quand même attractif. Comme les Israélites, ils ont voulu même revenir en Égypte parce qu'ils ont eu cette nouvelle attraction, ils ont senti cette nouvelle attraction de ce monde. Est-ce que nous avons encore vraiment cette conviction que le monde culturel, sportif, de finance, d'économique, de religion ne peut rien nous donner, rien de force, c'est par l'Esprit Saint, rien de direction, c'est par la parole de Dieu, rien de nourriture, c'est par la parole de Dieu. Alors c'est rien qu'on trouve dans ce monde sauf la faiblesse et les épreuves. Certainement il y a des places, comme on trouve aussi à la fin du chapitre 15, où il y avait des palmiers et des puits, où on a des oasis, que Dieu nous donne, par exemple, les réunions en assemblée, qui sont ici, sur la terre, des oasis pour être rafraîchis, pour trouver la force, la joie et la nourriture. Mais le monde en elle-même, ce que le monde offre, la littérature,
les vidéos, les films, la science de ce monde, comme j'ai dit, la religion de ce monde, les entreprises, l'économie, les finances, etc. de ce monde, c'est rien qui nous peut aider un centime, en centimètre. Rien. Ça laisse nos cœurs vides. Il y a un frère dans le 19e siècle qui a fait un cantique, qui a écrit « Si on a tout le monde, le cœur reste quand même vide. » Même si on a acheté, ce qui n'est pas possible en fait, mais si on était capable d'acheter tout le monde, le cœur reste quand même vide. Seulement si on regarde vers le Seigneur, tout de suite et toujours, le cœur est même plus que rempli. Alors, est-ce que le monde, avec tous ces produits, reste pour moi vraiment un désert? C'est vrai, ces épreuves sont partout, dans le travail, dans l'école, dans les familles, des épreuves, même dans les rassemblements, dans les assemblées, il y a des épreuves. Nous sommes au milieu des épreuves. Mais Dieu nous aide, parce qu'il nous donne la manne, il nous donne l'eau. Comme nous voyons, c'est très intéressant aussi dans 1 Corinthiens 10, où l'apôtre dit que les Israélites ont eu vraiment assez à boire. Il dit dans le verset 2, ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuit et dans la mer, et que tous, ils ont mangé la même viande spirituelle, et que tous, ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ. Alors, ils ont eu dans le désert assez à boire et à manger. Nous avons assez à boire et à manger. La question, où est-ce que je mange? De quoi est-ce que je mange? De quoi est-ce que je bois? Est-ce que c'est par Christ qui est là, et la manne est aussi Christ, ou est-ce que c'est plutôt par le monde? Et par cela, je reste sans joie, sans force, sans rien en fait. Alors le désert. Mais est-ce que le désert était le but de Dieu pour son peuple? Et la réponse est clairement non. Il a voulu, dès le début, il dit déjà avant que Moïse parle avec le Pharaon, au moins au début de ces rencontres que Dieu a eu avec Moïse, il parle qu'il a voulu les amener dans le pays, dans Canaan. Ça veut dire, le vrai but, ce n'était pas de rester dans le désert, mais de les amener dans le pays Canaan. Et en fait, après cette première année où le peuple a dû construire le temple d'assignation, après cette année, Dieu dit dans Deutéronome 1 que c'était seulement 11 jours de traverser le désert. Ça veut dire, normalement, très courtement, le désert, et après, ils étaient déjà dans les vallées de Moab pour entrer dans le pays. Ça veut dire, le vrai but était très vite pour le peuple d'Israël d'entrer dans le pays. Quel est maintenant le caractère ou la signification de ce pays? Canaan parle du ciel. Mais Canaan ne parle pas du ciel qui est devant nous quand le Seigneur va revenir peut-être aujourd'hui pour nous chercher. Pourquoi pas? Parce que dans le dans Canaan. Et il y avait des ennemis, et il y avait des combats. Et troisièmement, on a pu être chassé, amené captif au dehors de ce pays. Et il est très clair, si nous arriverons au ciel, il n'y a plus d'ennemis pour nous là-bas. C'est vrai, le Satan est encore là, quelques années, mais on n'a rien à faire avec lui. Deuxièmement, si nous sommes dans le ciel, il n'y a plus de combat. Et troisièmement, certainement, on ne peut jamais être chassé du ciel. Alors, Canaan doit signifier quelque chose différemment. Nous voyons dans Éphésiens 6 que l'apôtre nous parle de ce Canaan. On lit dans Éphésiens 6, dans le verset 12, quand l'apôtre parle de la mûre, il dit, Éphésiens 6, verset 12, « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. » Voilà, l'ennemi et combat qui est dans les lieux célestes. Je reviens sur Éphésiens dans une minute, juste pour montrer, le ciel, c'est son Canaan comme ciel, ce sont les cieux célestes pour nous et les lieux célestes. Et il parle du ciel où nous avons aujourd'hui déjà accès et où il y a des combats. Il est très remarquable que la plupart des combats n'étaient pas dans le désert, mais étaient dans le pays. La plupart des combats dans le désert même n'étaient pas parce qu'ils ont dû faire la guerre, combattre, mais parce qu'ils étaient désobéissants. Et à cause de leur désobéissance, ils ont dû combattre. Mais dans le ciel, il faut combattre parce qu'il y a Satan. Et quand Dieu parle du Satan, c'est jamais qu'il nous encourage de fuir. C'est toujours qu'il nous encourage et exhorte de combattre contre Satan, de résister Satan. Et cela, on trouve dans Éphésiens. Maintenant, la question est, quand est-ce que nous sommes entrés dans le ciel, dans ces lieux célestes? Peut-être, on peut poser la question, est-ce que tu as jamais entré dans les lieux célestes, dans le ciel? Positionnellement, Éphésiens 2 nous montre la chose suivante. Éphésiens 2, verset 5. Nous étions morts dans nos fautes, Dieu nous a vivifiés ensemble avec Christ, avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Ça veut dire qu'il nous a donné la nouvelle vie. Il nous a ressuscités ensemble. Il ne nous a pas seulement donné la nouvelle vie, mais il nous a placés dans cette atmosphère de résurrection où la vie peut vivre. Troisièmement, et nous a ressuscités ensemble. Et troisièmement, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Il n'a pas seulement nous a ressuscités, mais il nous a fait asseoir dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Ça nous montre que nous sommes, quand Dieu nous voit, position, nous sommes déjà dans le ciel, depuis le moment où nous avons cru au Seigneur. Après ce moment, Dieu nous voit dans le ciel. C'est notre position. Mais l'Ancien Testament ne parle pas de la position, mais parle si nous pratiquons, réalisons cette position dans notre vie pratique. Et c'est la question. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, on trouve qu'il y a le temps entre la Pâque et la traversée de la mer Rouge. Parce qu'avant de comprendre, avant de réaliser que l'œuvre de Christ est totalement suffisante pour tout, qu'il n'y a plus d'esclavage sous la domination de Satan, qu'il n'y a plus d'esclavage, pour ainsi dire, addiction au péché, il faut un certain temps, il faut une certaine croissance. Et alors, on réalise que le monde n'est plus quelque chose qui a domination sur nous, qui nous fait esclaves d'elle, mais que nous sommes dans une toute autre atmosphère, pour ainsi dire, situation, que le monde est maintenant le désert. Et quelquefois, ça dure 40 ans, peut-être 60 ans, avant que nous réalisions que nous sommes déjà dans les lieux célestes. Que le ciel est vraiment ce lieu, cette atmosphère, cette place où Dieu veut que nous goûtions vraiment, que nous goûtons vraiment les choses qu'il nous a données. Et maintenant, encore une fois, cette question. Est-ce que nous connaissons le ciel? En un mot, on a un cantique qui dit « Dans le ciel, nous ne rencontrerons pas un Dieu étranger. » Étranger. Parce qu'on connaît Dieu. Mais j'ai peur que nous rencontrons dans le ciel une région que nous n'avons jamais vue ici sur la terre. Et c'est dommage. Parce qu'en effet, on ne va rien trouver dans le ciel, dans l'avenir, que nous ne pourrions pas goûter, jouir déjà aujourd'hui. Et il n'y a rien du tout dans le ciel qui n'existe pas déjà aujourd'hui pour nos cœurs et pour notre jouissance. Certainement, si nous sommes parfaits corporellement aussi, il n'y a plus d'obstacles pour jouir ces choses. Mais aujourd'hui déjà, on peut être jour après jour dans ces lieux célestes pratiquement pour jouir ces bénédictions célestes. Et ces bénédictions célestes sont liées complètement à la personne de notre Seigneur et à lui comme ressuscité. Ce n'est pas le Sauveur qui nous parle de ces bénédictions célestes, parce que le Sauveur était ici sur la terre. Mais c'est celui qui était ressuscité, qui était glorifié, qui est maintenant comme le vrai Éléazar, grand sacrificateur, comme le Josué qui nous offre ses bénédictions dans le ciel. C'est lui qui est le début, donc qui est le commencement de la nouvelle création, Colossiens 1. C'est lui qui est la tête de l'assemblée, parce que la tête est dans le ciel. Ça veut dire toutes les bénédictions en liaison avec l'assemblée sont tous, sans exception, célestes, parce que l'assemblée est, pour ainsi dire, la seule chose sur la terre aujourd'hui qui n'appartient pas du tout à la première création. C'est une création de la nouvelle création. C'est la raison pour laquelle on n'a rien à faire, l'assemblée n'a rien à faire avec la mort. Nous, comme personnes, comme croyants, nous pouvons encore mourir. Mais l'assemblée ne meurt jamais. C'est la raison pour laquelle, j'ai dit certainement déjà une fois dans les années passées, qu'on ne trouve pas la mort de Rebecca dans le livre de Genèse. Parce que Rebecca est une image, un type de l'assemblée. Certainement, Rebecca est morte. Mais la parole ne parle pas de sa mort. Parce que l'assemblée vit. Et si le Seigneur va nous chercher, l'assemblée ne doit pas aller par la mort. Elle sera glorifiée dans le ciel sans la mort. L'assemblée est vraiment quelque chose qui est que de la nouvelle création, que céleste. Alors, est-ce que nous avons à cœur d'avoir quelque chose aujourd'hui déjà de ces lieux célestes? Il est très intéressant que Dieu n'a pas attendu pour le peuple d'Israël de leur parler de ces bénédictions du pays jusqu'à ce qu'ils gagné des combats contre les Cananéens. On voit dans les chapitres 6 à 12, dans le livre de Josué, qu'ils ont combattu contre les ennemis. Mais Dieu n'a pas attendu cela avant de leur montrer « Et ici sont les bénédictions ». Non, on trouve ces bénédictions uniquement dans une façon si belle décrite dans Deutéronome 8. On trouve les sept fruits du pays, on trouve l'eau dans différentes connexions, liaisons, on trouve la sécurité pour le peuple d'Israël. Alors, toutes ces bénédictions sont décrites dans Deutéronome 8, avant que le peuple soit entré dans le pays. Et c'est pour nous aussi. Dieu nous décrit ses bénédictions aujourd'hui, que nous goûtions, que nous jouissons ces bénédictions déjà aujourd'hui, avant que dans l'avenir, parfaitement, nous soyons capables de les goûter et de les jouir. Il est vrai, il ne faut jamais oublier que comme condition pour jouir ces bénédictions, il était nécessaire, Josué 1, verset 1, la mort de Moïse. Sans la mort de Moïse, il n'y avait pas de bénédiction pour nous. Sans la mort de Jésus et sa résurrection, certainement, il n'y avait pas d'espoir pour nous. Pas de résurrection pour nous. Pas de glorification. Pas du ciel ouvert pour nous. Peut-être quelqu'un dit, oui, mais Moïse, il était mort à cause de sa faute. C'est vrai. Mais quelquefois, elle est décrite différemment. Deutéronome 1, par exemple, parle de sa mort. Il est dit, Deutéronome 1, verset 37. Deutéronome 1, verset 37. Contre moi aussi, l'Éternel s'irrita à cause de vous, disant, toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, il va entrer. Alors la mort de Moïse était à cause des Israélites. La mort de Moïse et la mort de notre Seigneur était à cause de nous. Mais il était mort. Et par sa mort, il est maintenant possible d'entrer dans le pays, dans le ciel. Et Dieu utilise pour cela Josué. Et Josué est décrit ici, et il est intéressant de voir que Josué est montré dans les livres de Moïse comme quelqu'un qui montre aussi la personne de notre Seigneur, mais dans une différente angle. Il dit dans Nombre, j'espère, Oui, Nombre 27, verset, c'est déjà remarquable, verset 15, Moïse parle à l'Éternel, disant que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et entre devant eux, et qui le fasse sortir et les fasse entrer. Ça nous fait penser, n'est-ce pas, à Jean 10, où on voit que le Seigneur a mis la fondation pour nous, pour entrer et sortir. Et alors, elle dit, Dieu dit alors à lui, « Prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'Esprit, et pose ta main sur lui. » Moïse est un type de notre Seigneur objectivement. On peut regarder vers Moïse comme il est allé avant le peuple d'Israël, et par cela, il est un type de notre Seigneur, comme il est décrit par exemple dans Hébreux 12, parce qu'il me manque un mot, je lis ce verset. Hébreux 12, l'écrivain dit dans le verset 2, je crois. Oui, fixez les yeux sur le chef et le consommateur de la foi. C'est Moïse. Il était, pour ainsi dire, celui, comme il est dit ici, le chef, ça veut dire celui qui commence et marche à la tête. C'est Moïse. Et le consommateur, bon, Moïse n'a pas vraiment fini sa marche ici parfaitement, mais le Seigneur est certainement plus grand que Moïse. Mais Moïse, le Seigneur qu'on peut regarder. Mais Josué est plutôt celui dans lequel il est l'Esprit. Ça veut dire que c'est un type de notre Seigneur qui est par son Esprit, l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit certainement, agit en nous. Ça veut dire, Josué ne parle pas du Seigneur objectivement que nous pouvons voir, mais c'est celui qui agit subjectivement dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, par l'Esprit Saint, par son Esprit. Et c'est lui qui, par cet Esprit, nous veut offrir toutes ces bénédictions que nous trouvons dans le ciel. Il dit, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. » Alors, ça nous montre, pour devenir possesseur des bénédictions, il faut mettre le pied sur la terre. Ça veut dire spirituellement pour nous, ça veut dire si nous voulons être en possession de ces bénédictions, il faut les lire dans la parole. C'est particulièrement l'épître aux Éphésiens et aux Colossiens. Et troisièmement, l'évangile selon Jean. Parce que la vie éternelle est en un mot ces bénédictions spirituelles. Et il faut s'occuper d'eux. Ça veut dire, il faut le lire, il faut s'occuper, il faut réfléchir sur cela avec la prière. Alors, il faut remercier de cela, parce que seulement les choses pour lesquelles nous rendons grâce à Dieu et deviennent nos possessions. Quatrièmement, il faut parler de ce, parce que ce qui est dans mon cœur, de ces choses, je vais parler aux autres. Et cinquièmement, il faut les défendre. Parce que Satan ne veut pas qu'on s'occupe de ces bénédictions. Et il ne veut pas que nous jouissons ces bénédictions. Il veut les nous voler. Alors, il faut les défendre. Défendre veut dire, par exemple, si le péché essaye de m'attirer, de dire non, parce que je suis mort. Je suis mort avec Christ, je ne dois plus pécher. Mais par le péché, je perds la jouissance de ces bénédictions parce que Dieu doit m'occuper de mon péché pour le confesser, pour le jugement de moi-même. Et alors, je n'ai plus le temps, l'énergie, la joie de m'occuper des bénédictions célestes. C'est la raison pour laquelle le péché vraiment est ce moyen que Satan utilise pour nous faire perdre pratiquement ces bénédictions. Ces bénédictions, pour le dire, sont la personne de notre Seigneur ressuscité dans le ciel et aussi les choses qui sont liées à cette personne glorieuse qu'il nous a donnée. Par exemple, que nous sommes élus avant la fondation du monde, etc., que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens. Peut-être tu dis, mais quelle est la valeur de ces choses? Et voilà, c'est le problème. Si on n'est pas au ciel, on ne comprend pas la valeur de ces choses. La valeur est grande parce que toutes ces bénédictions sont liées à une personne qui était morte une fois pour nous, qui nous aime et par son amour et nous donne toutes ces bénédictions. C'est Dieu par lui. Et si je vois que c'est Dieu qui veut me donner toute sa richesse, les choses, les bénédictions, qu'il jouit lui-même. Alors, si lui jouit ces choses, j'aimerais aussi les jouir. Alors j'aimerais, verset 3, planter mon pied sur des choses. Verset 4 nous montre les frontières. En effet, je crois qu'on peut dire que les frontières étaient une fois courtement réalisées sous le règne de Salomon. On voit vraiment que le royaume, avec des pays qui étaient sous sa domination, était jusqu'à Euphrate. Dans le futur, pour le peuple d'Israël, ce sera vraiment leur pays. Pour nous, on voit que les frontières nord, l'est, sud, l'ouest sont si loin qu'on ne va jamais être fini, qu'on ne peut jamais finir avec toutes ces bénédictions, avec toutes ces frontières que tu nous montres. Ça veut dire, pour prendre ces mots que nous avons exprimés déjà, Dieu veut que ces limites des bénédictions que nous voyons aujourd'hui soient grandies, pour ainsi dire, que les limites sont poussées vers le nord, vers l'est, sud et l'ouest, pour que nous jouissions plus de ces bénédictions. Est-ce que nous avons commencé à nous occuper avec cela? Est-ce que nous continuons avec ces bénédictions? Est-ce que nous voulons jouir plus et plus de ces bénédictions? Pour cela, il est nécessaire d'être fort. Et c'est Dieu qui nous fortifie. C'est, je crois, trois fois que Dieu encourage Josué par cette expression « fortifie-toi ». Et en effet, il est nécessaire d'être fort pour jouir ces bénédictions. Il est remarquable que dans Éphésiens 6, verset 10, tout au début de la description de cette armure, l'apôtre dit aux Éphésiens, Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. » Ça veut dire qu'il y a une multiple force nécessaire pour jouir ces, ces choses. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. C'est vrai, la force n'est pas en nous, mais Dieu nous donne cette force pour la jouir, pour l'utiliser pour vraiment jouir ses bénédictions. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre sagesse qui nous fait jouir ces choses. On a la force dans le Seigneur, par Dieu, qui nous donne cette force. Maintenant, pour finir, il est triste de voir dans les versets 12 à 18 qu'il y avait deux tribus et demi qui n'ont pas voulu jouir ce pays, pour ainsi dire cette bénédiction céleste. On voit l'origine de cela dans Nombre, c'est dans le chapitre 32, quand on lit, et les troupeaux des fils de Ruben et des fils de Gad étaient en grand nombre, en très grande quantité. Et ils virent le pays de Jaser et le pays de Galaad, et voici le lieu était un lieu propre pour des troupeaux. Et les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent et parlèrent à Moïse et à Éléazar, le sacrificateur, et au prince de l'assemblée, disant, et disent, on veut rester à l'est de ce Jourdain parce que ici c'est super bien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient autant de troupeaux. Ça veut dire la bénédiction de Dieu pour eux était la raison pour dire je ne veux pas plus, je ne veux pas jouir les choses que tu nous donnes encore. Peut-être Dieu nous a donné une bonne santé, c'est terrestre. C'est à l'est de Jourdain. Les vallées de Moab, ils parlent des bénédictions terrestres. La santé est une de ces choses. Et j'ai une bonne santé, et pour cela, j'utilise mon santé pour des choses terrestres, à la place de l'utiliser, cette santé pour m'occuper, pour prendre le temps, plus de temps dans les choses célestes. Peut-être j'ai des possessions, et je dis, oui, mais j'utilise les possessions pour la terre. Il y a une chose très importante. Les bénédictions terrestres ne font pas de différence entre nous, les croyants, et les incrédules. La santé, les possessions, la capacité, par exemple, de pouvoir travailler, penser. Tous les incrédules, la plupart des incrédules, comme la plupart des croyants, ont ces dons terrestres. J'espère que la différence quand même est que nous rendrons grâce pour ces bénédictions terrestres. Mais les bénédictions célestes, aucun incrédule a quelque chose dans le ciel. Personne. C'est que nous qui avons ces bénédictions célestes. Et c'est dommage si on reste fixé avec les yeux, avec nos cœurs sur des choses terrestres. On voit très clair dans la suite de l'histoire du peuple d'Israël. C'était la partie qui était amenée captive le premier. Parmi Ajak déjà, et plus tard aussi. Deuxièmement, déjà, on voit dans plus tard dans ce livre, que chapitre 4, où il est dit, verset 13. Et les fils de Ruben et les fils de Gad et la moitié de la tribu de Manassé passèrent armés devant les fils d'Israël, comme leur avait dit Moïse. Environ 40 000 hommes équipés en guerre passèrent devant l'Éternel pour combattre. Si on compare cela avec les nombres de ces deux tribus et des mis dans Nombre 26, ça montre que c'est le plus, la moitié de ceux qui étaient capables de combattre. Ça nous montre que ceux qui fixent leurs yeux sur des choses terrestres, qui sont contents d'avoir les bénédictions terrestres, ils n'ont plus l'énergie de combattre pour le Seigneur. Si la situation, si l'état dans le peuple de Dieu est bien, cette partie du pays à l'est de Jourdain reste avec le peuple. Mais quand l'état, la condition dans le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, décline, ce sont les premiers qui sont, comme je dis, amenés captifs. Et comme nous voyons aujourd'hui que l'état dans le peuple de Dieu est très bas, c'est très clair que ceux qui cherchent particulièrement, premièrement, entièrement, les choses terrestres vont être perdus pour le combat du peuple de Dieu, pour le témoignage du peuple de Dieu très très tôt. Et on peut ajouter encore plusieurs détails. On voit que cette partie du peuple était vraiment... ou que la description de la parole de Dieu sur cette partie, sur ces deux et demi tribus, est très négative. Au début, c'était deux tribus seulement. Et tout d'un coup, dans Nombre 35, on voit... Il y a ce demi-partie de ce tribu de Manassé avec eux. Si on voit ceux qui ont succès dans les choses terrestres, c'est un modèle pour plusieurs. C'est attractif pour la chair. Et il y a d'autres qui suivent. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas les suivre. Parce que la fin de cette partie était beaucoup plus tôt la captivité que pour le reste du pays. Si Dieu nous a donné des choses terrestres, par exemple les possessions, est-ce que nous utilisons ces choses pour l'œuvre de Christ, pour l'œuvre du Seigneur? Alors on peut vraiment changer des choses, pour ainsi dire, de ces choses terrestres peuvent devenir des moyens pour des choses célestes, pour par exemple l'œuvre du Seigneur. Si on voit la santé que Dieu nous a donnée, si je ne me concentre pas sur des choses terrestres, mais je peux utiliser ce que Dieu me donne terrestrement, pour ainsi dire, pour les choses célestes. Je peux prendre une heure de plus pour m'occuper des choses célestes, pour l'œuvre du Seigneur. Si on voit, par exemple, ce don terrestre, la capacité de travailler, la capacité de comprendre, on peut utiliser tout cela pour son travail. Mais je peux utiliser la même chose aussi pour l'œuvre du Seigneur, pour les choses célestes. Et alors ça nous montre que le Seigneur a comme but pour nos vies, pas seulement la jouissance des choses célestes, terrestres. On peut les jouir parce qu'elles sont de Dieu. Mais il veut que nous utilisons toutes choses pour lui, pour le ciel, et que nous entrons déjà aujourd'hui dans ces choses célestes. C'est vraiment quelque chose qui nous garde. Si nos yeux sont fixés sur Christ dans le ciel et les bénédictions qui sont liées avec lui, à lui, on est gardé de errer ici sur la terre, de suivre des choses sur la terre qui ne sont pas bien, et le cœur est plein parce qu'on a Christ, Christ ressuscité, glorifié dans son cœur. Je crois qu'elle est vraiment utile dans ce sens-là, de regarder dans les livres comme Josué dans l'Ancien Testament, comme Éphèse, Colossiens dans le Nouveau Testament, pour être occupé des choses célestes. Parce que les choses terrestres, on va tous laisser ici. Mais les choses célestes, elles vont être gardées. Et on va continuer de s'occuper de ces choses, de jouir des choses éternellement.